Bienvenue à Confession de leader, un balado inspirant pour propulser votre équipe au travail. Je m'appelle Chloé Caron, je suis auteure, coach exécutive et fondatrice d'O2 Coaching. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie de l'événement Au-delà de la pénurie, misons sur nos gens, qui s'est déroulé le 31 mars 2022 en direct sur le web. Avec les défis que connaissent les organisations pour non seulement recruter, mais aussi fidéliser leurs employés, mon équipe et moi avons invité des leaders et des professionnels des ressources humaines à réfléchir aux meilleurs moyens d'y parvenir. Lors de l'événement, j'ai invité trois partenaires d'O2 Coaching venir partager leur approche, mais aussi leurs techniques concrètes pour créer un climat d'équipe attrayant. Dans la deuxième partie de l'événement, vous allez donc entendre, dans un moment, Ruth Vachon, Guylaine Audet et François Villeneuve. Je voulais vous partager comment ces trois leaders que j'affectionne particulièrement s'y prennent au quotidien pour mobiliser leurs équipes et permettre à leur organisation d'être plus compétitive, résiliente dans le contexte actuel. Voici donc les meilleurs moments de cette table ronde pilotée par Thomas Leblanc.
Je me lance pour vous présenter les invités de cette table ronde qui ont été choisis par Chloé. D'abord, Ruth Vachon, présidente, directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, cumulant plus de 30 ans d'expérience en entrepreneuriat. Ruth, tu sillonnes le monde pour donner des conférences et tu pilotes des missions commerciales qui mettent de l'avant la prospérité et la croissance au féminin. Ça, c'est une grosse CSU.
Quand même.
Une passionnée de réseautage qui crée des occasions d'affaires pour les membres, dont fait partie Chloé. Le Réseau des femmes d'affaires du Québec a fait appel à O2 pour des conférences et un atelier sur la CSU, justement. Et Ruth, tu as participé à la deuxième saison du podcast de Chloé. Bienvenue à cette table ronde.
Hey, merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être ici.
Merci d'être avec nous. Tu faisais une blague tantôt, tu disais une culture d'entreprise.
Ça ressemble à ça, une culture.
Merci d'être avec nous. Maintenant, je vais présenter Guylaine Audet de CAE, vice-présidente Capital Humain, donc la grande patronne des ressources humaines et du talent chez CAE. Guylaine détient un baccalauréat en droit civil de l'École du barreau du Québec, une maîtrise en administration des affaires avec une majeure en finance, ainsi qu'un certificat en gestion des ressources humaines de HEC Montréal. L'école, vous aimez quand même ça. Vous êtes vice-présidente du secteur RH de CAE et présentement, vous pilotez une transformation culturelle quand même assez importante chez CAE. Il y a des liens là, quand même importants avec ce qu'on vient de parler avec Chloé. Et vous avez fait appel à O2 Coaching pour former des leaders à travers le monde, parce que ça, on le voit aussi. Là, on parle de concepts qui peuvent nous être clairs ici dans notre culture à nous. Mais dans d'autres cultures, ça peut être assez différent. C'est CAE, bien entendu, qui est un fleuron de l'aéronautique. Merci d'être là, Guylaine.
Ça fait extrêmement plaisir.
Et on va rejoindre François Villeneuve, qui est notre troisième invité à distance, qui est directeur accès au marché et tarification chez Bristol Myers Squibb, diplômé en administration et en marketing de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il a occupé de nombreux postes en pharmaceutique au Canada, mais aussi en République tchèque, quand même. En plus d'être un joueur important de la mise en marché dans son industrie, François est un gestionnaire qui est axé sur les résultats. Il a été récompensé notamment du prix GSK Gold Ticket Award justement pour son leadership inspirant. Donc, quand même, trois bonnes pointures. Et récemment, François a fait appel à O2 pour accompagner l'équipe de direction grâce à un programme One Team afin de créer encore plus de synergie entre les membres. Bonjour, François.
Bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui de façon virtuelle. J'aurais bien aimé être avec vous en studio, mais c'est un plaisir de participer à l'événement.
C'est parfait comme ça. Écoutez, là, j'ai fait les grandes présentations, mais je veux vous entendre. C'est vous les stars de la table ronde. On vient de parler de CSU, la contribution stratégique unique. Vous travaillez avec O2, donc c'est un concept que vous connaissez. Pourquoi, comme leader, c'est important, c'est fondamental de déterminer sa CSU, Guylaine?
Ben en fait, on vous l'avait mentionné au tout début, mais c'est vraiment de jouer au bon niveau. Et tout le monde est un peu là pour contribuer, pour ajouter de la valeur, pour avoir un sens de vraiment être à la bonne place et de vraiment faire la différence. Alors que quand tu établis ta CSU, tu te positionnes pour justement faire la différence. Et en même temps aussi, ça c'est très égoïste, là, comme individu, on fait notre marque. Mais en même temps, au niveau de nos collaborateurs, on les développe. On leur permet de prendre la place, on les permet de se développer, de prendre des risques, de prendre des décisions.
Et de se former.
De se former, de se développer là-dedans et de se responsabiliser à travers ça et de pouvoir évidemment nous succéder pour nous permettre d'aller ailleurs. Alors, c'est vraiment comme très, c'est critique et c'est primordial.
François, vous avez utilisé, vous avez fait le programme One Team avec O2 Coaching. La CSU, avez-vous vu un avant, un après là, justement dans votre équipe?
Ah oui, oui, définitivement. Je veux dire, nous, ce que ça nous a permis d'accomplir, moi, ce que j'ai beaucoup aimé du concept de la CSU, là, que je connaissais pas du tout auparavant, c'est que, comme ça a été mentionné un peu plus tôt, ça nous permet d'atteindre, parce que ce que moi, je trouvais là, deux objectifs précis, là, mais le premier, c'est de clarifier notre propre contribution individuelle ou celle de notre équipe de gestion, de notre équipe de leadership. Et ce que j'aimais, c'est que ça nous permet d'éviter de tomber dans le carcan, en tout cas que moi, je trouve plus restrictif, là, des fameux rôles et responsabilités, puis des descriptions de tâches, etc. Ça nous permet de nous ancrer vraiment sur l'endroit où on peut apporter notre meilleure contribution, puis que ce soit au niveau stratégique approprié, je dirais. Donc, dans notre cas, ça a vraiment changé là, notre façon de travailler, notre façon de collaborer, la structure de nos meetings, la sorte de conversation qu'on a dans ces meetings-là, etc. Donc, un outil extrêmement puissant, je dirais.
Je sais que vous avez fait l'exercice de la CSU pour vous, puis vous avez tellement aimé ça que vous l'avez fait pour votre équipe, évidemment, mais aussi pour l'organisation au complet. Parlez-nous un peu de cette expérience-là, cette révélation-là de la CSU.
Bien, tantôt, c'est drôle, hein, parce que Chloé en parlait un petit peu. Avec le début de la pandémie, ça a forcé les leaders à agir autrement. Ouais. Tu sais, on était peut-être des bons leaders, mais le leader qu'on était a dû avoir une grande, grande, grande adaptation, admettons, pour le dire très poliment, là. Alors moi, quand j'ai lu ça, c'est dans le temps de Noël, ça a été vraiment une révélation parce qu'on se questionnait, tu sais, on se questionne toujours, mais on s'est questionné d'autant plus fortement au début de la pandémie. Et ça, c'était comme une révélation. On parlait de notre X, on parlait de... Mais être sur son X et bien contrôler sa CSU, parce qu'on a comme embrassé en même temps. On a toujours essayé de tout faire, mais là, on a essayé de sur-tout faire depuis le début de la pandémie. Ça, ça a été une prise de conscience où ça nous a permis de retrouver notre authenticité et d'être capable d'en parler. Parce que moi, tout le long que je le disais, je me posais la question pour moi. Et après, je disais à l'équipe, écoute, on va le faire. On a commencé par l'équipe de direction. Je trouve que ça a permis d'ouvrir un discours authentique sur quand je pense à toi, toi, ta CSU, tu la vois comment? Chacun l'a écrit, on l'a fait. Puis là, ça a ouvert un dialogue sur, ah, moi, c'est drôle, hein? Quand je pense à quelque chose que juste toi qui peux faire ici, c'est à toi que je pense, tu sais?
Et ça, c'est intéressant, la perception de l'autre,
oui,
de notre rôle.
On l'a fait du côté des deux perceptions. Et depuis ce temps-là, je trouve que ça a permis de garder ce dialogue ouvert-là. Puis à toutes les fois qu'on embauche quelqu'un, si c'est pas quelqu'un, que c'est moi qui fais l'entrevue, c'est sûr qu'à la première entrevue, je vais lui en parler. Je vais lui dire, nous, chez nous, c'est important. Si on est une organisation qui est en pleine croissance, si tu ne me partages pas là où toi, tu vises l'excellence, peut-être que je le découvrirai pas. Alors, je t'invite à nous en parler le plus rapidement possible parce qu'exploiter tes défauts, c'est peut-être pas le rêve de ma vie.
On vient parler d'un entretien d'embauche. Puis justement, aujourd'hui, le thème, c'est vraiment le recrutement en période de pénurie. Comment est-ce que la culture d'entreprise peut devenir une arme d'attraction et de rétention massive? Là, je me tourne vers vous, Glenn, parce que je sais que vous travaillez beaucoup là-dessus chez CAE. Comment ça permet d'attirer des talents? C'est quoi l'équation entre culture d'entreprise et attraction de talents?
En fait, je dirais que la façon la plus concrète, c'est que souvent, on va recruter à travers les pairs.
Ouais.
Et la réputation...
Le réseau, là.
Le réseau, on demande à nos gens, on voit ça sur LinkedIn, Connect, et c'est la meilleure façon, non seulement d'avoir un recrutement efficace, mais durable. Parce que la personne qui fait confiance à un collègue de travail, il lui fait confiance. Donc, quand il dit « viens me rejoindre dans mon organisation », elle est digne de confiance, elle a une bonne réputation, tu vas progresser au sein de l'organisation. Alors, déjà là, t'embarques en
connaissance. Il y a un transfert immense, c'est très précieux ça. Là.
Extrêmement précieux. En fait, il y a plusieurs éléments, mais le premier élément, c'est « OK, je sais où est-ce que je m'en vais, donc je prends une décision volontaire, je ne fais pas juste « shop around ». Et la deuxième chose, c'est que quand j'arrive au sein de l'organisation, j'ai un point d'ancrage avec le collègue que je connais. Alors, c'est vraiment très, très durable. Et pourquoi la culture est importante? Parce que si je suis fière de mon organisation, si j'aime y travailler, c'est sûr que je vais en parler en bien. Je vais recommander à mes gens qui sont très près de moi de se joindre avec moi. Alors,
je vais vouloir protéger la culture quand je travaille.
Mais je vais la vivre parce que je vais la faire perdurer. Ouais. Alors, c'est au cœur de non seulement la réputation, c'est au cœur de l'énergie positive que chaque employé va amener. Et donc, c'est un facteur facteur d'attraction de nature.
Et quand, comment on peut faire, là, Ruth, mettons, quand des, là, la culture peut être connue, mais si on ne la connaît pas, tu sais, mettons, quelqu'un qui ne connaît pas une organisation puis qui arrive chez vous, comment ça peut devenir une arme de rétention puis d'attraction, la culture d'entreprise?
Moi, je trouve que quand on ne la connaît pas, il y a un devoir à faire. Ouais. Moi, je suis un petit peu comme Guylaine. Avant la pandémie, je ne faisais pas ça, aller à travers mon réseau, aller à travers les collègues. Maintenant, je trouve que c'est une arme qui est puissante. Je le fais, je l'ai fait encore cette semaine, d'aller à travers le réseau et de puiser. Mais au-delà de ça, quand quelqu'un essaie de nous recruter de l'extérieur, ton image, l'image que tu donnes sur les médias sociaux est extrêmement importante, ta façon de communiquer. Nous, moi, c'est comme un dada chez moi de communiquer d'une façon humaine. Alors moi, je vais souvent dire, pouvez-vous me rendre ce message-là plus humain? Et les gens maintenant, quand tu recrutes des gens, nous, l'équipe a triplé depuis le début de la pandémie.
Ah, quand même, hein?
Et il y a quelque chose qui s'est vraiment démarqué. Il n'y a pas une seule personne qu'on a passée en entrevue qui n'a pas dit « j'ai besoin d'un travail qui donne un sens à ma vie ».
Ah, wow.
Alors, si quelqu'un, tu vois, c'est vraiment la tendance, puis la tendance un peu générale, quand les gens vont voir ton image sur les médias sociaux, si ce n'est pas ce que tu reflètes, tu es en train de passer un faux message. Et ça se capte très rapidement.
Mais ça, c'est incroyable parce que là, on voit qu'on doit aligner des objectifs d'affaires avec de l'authenticité et du sens. Oui. Je dis pas que c'était pas présent avant, mais là, c'est plus présent que jamais. C'est incroyable.
Je pense qu'on a dû revoir nos façons de faire. Elle parlait tantôt de la solitude des leaders. Puis moi, je pense qu'on est venu à un niveau où ça a été vraiment difficile. Vraiment difficile parce que il a fallu que tu changes ton style de leadership, que tu pas juste adapter, que tu le changes. Les gens qui étaient là, avec qui tu avais une relation, étaient des gens qui étaient rendus visuellement. Tu devais comprendre ce que le message qui te passait à travers l'écran. Tu devais alors de vraiment amener ton message d'une façon authentique, amène aussi ton équipe à communiquer de la même façon.
C'est un gros changement. François, je me tourne vers vous. Quand on construit une équipe, justement, puis qu'on réfléchit à ces impacts-là, l'importance de la culture organisationnelle sur le recrutement puis l'attraction, quels gestes concrets on peut poser pour livrer un peu la marchandise auprès des personnes qu'on va recruter?
Mais ce que je dirais, moi, un élément qui est souvent sous-estimé, là, quand on est en processus de recrutement, souvent on va avoir tendance à essayer d'évaluer au cours des discussions ou des entrevues, d'évaluer si le candidat correspond à nos attentes, correspond à nos besoins, puis va nous aider à atteindre nos objectifs. Mais souvent, on a tendance à oublier. Je pense que c'est encore plus nécessaire, c'est primordial aujourd'hui, que nous aussi, comme employeurs, on a un travail de séduction, puis on a un travail de vente, entre guillemets, à faire auprès des candidats aussi. Puis souvent, on va avoir tendance à parler de comment est l'organisation, les perspectives de succès dans le futur, etc. Puis on sous-estime l'importance de parler de la culture organisationnelle. Qu'est-ce qui est valorisé chez vous? Qu'est-ce qu'on aime? Comment on travaille? Comment ça se passe au day-to-day? De leur offrir la possibilité, des fois, quand les candidats se rendent plus loin dans le processus, de rencontrer d'autres gens, puis de poser des questions, etc. Parce que je dirais que, puis moi, je l'ai subi dans le passé, d'avoir sous-estimé l'importance du fit organisationnel ou du fit avec la culture, ouais. Ça devient un échec malheureusement où les gens ne sont pas heureux, ne se réalisent pas au sein de l'organisation. Donc, je pense que concrètement, quand on est en processus de recrutement, il faut penser de parler de la culture organisationnelle.
Là, ça va être gros ce que je vais dire, mais on est dans une situation où les gens très qualifiés, les grands talents peuvent magasiner leur culture d'entreprise.
Là. Beaucoup.
C'est incroyable. Guylaine, ça vous fait quoi concrètement? Quelle pratique clé on peut faire quand on sait que c'est ça l'état d'esprit du candidat potentiel?
En fait, j'aurais tendance à dire que présentement, on vit, je dirais, une ère sans précédent. Là. On a on doit être en marketing tout le temps pour attirer les talents. Et il y a une compétition extrêmement féroce et c'est mondial.
Oui, mondial.
C'est très, très difficile. Au-delà du salaire, il y a vraiment la raison d'être de l'organisation. On a parlé un peu plus tôt de l'image, on a parlé de la réputation. On a parlé du fit.
Le cadre de vie.
On a parlé du fit et je suis extrêmement d'accord avec François quand il dit on doit se vendre. Alors, quand on est en entrevue, on n'est plus dominant, dominé. On est vraiment, écoute, je désire adjoindre ton talent au sein de l'organisation et voici pourquoi te joindre à notre organisation va t'apporter tant. Alors, les pratiques clés, je dirais, en est une de dévoiler avec authenticité, qui on est dans l'organisation, d'où la culture, d'où l'importance, parce que tu dois être crédible dans ton message. Oui. Tu dois faire rencontrer la personne à plusieurs autres leaders et collègues pour permettre de vivre un petit moment de la vie au sein de l'organisation. Et ça, je pense que c'est des facteurs
qui... Comment on fait en pandémie? Là, on retourne au bureau, comment c'est ça? Là?
Je l'ai mentionné, c'est vraiment une ère de sans précédent. Je dirais que recruter en temps de virtuel... C'est encore possible, mais c'est
ça ajoute un niveau de complexité là, si on veut faire vivre quand même cette espèce de truc qui est dur à nommer. Ruth, comment
la majorité des gens, nous, comme je disais tantôt, l'équipe a tellement grandi, mais la majorité des gens à qui on faisait une offre répondaient « je te reviens dans 2-3 jours parce que j'ai 3 autres offres en même temps. » Alors,
c'est comme les maisons, là.
Oui, c'est pas nécessairement une surenchère financière. Mais alors, c'est là que
c'est des conditions.
L'importance de mettre l'humain sur la table ou dans la conversation est devenue tellement importante. Moi, je n'avais jamais fait ça avant, mais j'ai fait plein de fois quand ils passaient une entrevue, on avait une firme qui travaillait avec nous, qui me disait « Ruth, ça n'a pas fait de prendre le téléphone et d'appeler la personne et de lui parler de la culture, de l'organisation. » Mais c'est un peu des deux côtés. Je t'entendais tantôt. Et ces gens-là qui veulent se mailler à ta culture, mais que ce n'est pas dans leur valeur, ça ne fait pas. Moi, les personnes qui sont parties de chez nous, ce que je voyais, je me disais « Hein? » Je pense qu'elle a voulu acheter notre culture, mais elle ne lui appartenait pas.
Ça elle a tenté sa chance, mais c'était pas... François, ça vous dit quoi, ça, ces espèces de maillages-là? Est-ce que c'est des défis que vous rencontrez pour bâtir des équipes?
Oui, bien sûr. Pas quotidiennement, mais presque. Puis je me reconnaissais beaucoup là, dans ce que les partenaires du panel soulignaient. Puis c'est ce que je vous expliquais un peu tantôt. Quand le fit culturel ne prend pas, quand le jello ne prend pas, bien malheureusement, c'est une perte de temps à la fois pour l'employé et puis pour l'organisation. Puis comme j'expliquais, moi, j'ai eu des cas précis où j'ai recruté, moi, personnellement, des gens qui étaient brillants, performants, que j'étais convaincu qu'ils allaient avoir beaucoup de succès, mais leur culture organisationnelle ne leur parlait pas, ne fitait pas avec eux.
Comment on vérifie ce fit-là?
Ça transparaît assez rapidement. Les gens ont de la difficulté à comprendre comment l'organisation fonctionne. Les gens ont de la difficulté à bâtir des liens. Les méthodes de travail sont différentes pour eux. Les éléments qu'eux valorisent ne sont pas nécessairement ceux qui sont reconnus par l'organisation. Ça transparaît assez rapidement, je dirais.
En écoutant Ruth, Guylaine et François, c'est clair que la culture d'entreprise joue un rôle primordial pour non seulement attirer, mais aussi fidéliser les employés de qualité. Grâce au coaching, c'est possible de faire évoluer une culture d'entreprise puisque ça nous permet, comme gestionnaire, d'ailleurs, de qui part la culture, de développer une meilleure conscience de soi puis de notre impact comme leader, d'apprendre des nouveaux outils puis de les mettre en pratique en temps réel pour ajuster aux besoins et créer une culture mobilisante.
J'aimerais maintenant qu'on parle un peu justement de formation et de coaching, parce qu'en lisant Propulser votre équipe, puis moi, un des impacts, là, je le disais à Chloé tantôt, c'était que j'ai senti qu'on peut changer. J'ai trouvé ça inspirant en me disant, il y a qui je suis à la base, mais il y a des moments où je peux quand même améliorer. Ruth, vous n'avez pas l'air sûr. On est qui on est, puis...
Oui, on t'as senti qu'on peut, si on veut,
si on veut.
Ce que j'ajouterais. Il y a un grand travail à faire, mais... ce que je réalise, c'est que depuis les 2 dernières années, il y a énormément plus d'accompagnement à faire. Ça a toujours été important d'accompagner nos équipes, mais ça l'est encore plus parce qu'il y a quelque chose d'intangible qu'on ne touche pas en étant virtuellement éloigné. Ouais. Alors, nous, depuis 2 ans, on a quelqu'un qui suit tout le temps individuellement et en groupe d'une façon régulière. Les membres de l'équipe peuvent faire appelle à ses services et elle semble très utile parce qu'elle est sollicitée très souvent. Mais ça, c'est pas quelque chose...
Comme du coaching?
Du coaching. Okay. Qui est devenu extrêmement important et pas si facile que ça. Tu sais, dans ta CSU, là, ça se peut aussi que tu ne sois pas nécessairement la meilleure pour régler tout ça. Alors, quand tu as une personne que tu sais que l'équipe peut se référer, je trouve que c'est très sécurisant parce que moi, quand je me lève le matin, je sais que je ne suis pas toujours la meilleure coach au monde.
Ah, ça prend de l'humilité quand même pour...
Pas de misère avec ça.
Formation et coaching, comment mettons justement dans un... Là, vous parliez que c'est très compétitif. Est-ce que ça peut avoir un avantage? Est-ce que si les gens sentent qu'ils ont un potentiel de développement via la formation puis le coaching, ça peut faire une différence dans le recrutement?
Non seulement ça fait une différence. On vient de faire l'acquisition au sein de CA d'une organisation, une partie de Sabre. Et la plupart des employés, après qu'on a parlé à partir de la compensation, la plupart des employés qui se joignaient finalement au sein de l'intégration, les questions étaient par rapport à la formation. Est-ce que CAE offre des formations? Est-ce que CAE supporte le développement, la croissance des employés? On parle encore une fois mondialement, parce qu'évidemment, on œuvre dans 17 pays avec cette nouvelle acquisition-là. C'est au cœur. Chacun veut croître, chacun veut se développer. Et il y a différents niveaux. Moi, je crois beaucoup au coaching. C'est extrêmement difficile d'être bon leader coach, parce que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu fais juste poser les bonnes questions et tu laisses la place à ton contributeur, à la personne avec qui tu travailles, de prendre ses propres décisions, de faire ses propres jugements, d'évoluer là-dedans. Mm-hmm. Et c'est pas facile parce qu'on a tendance à revenir en méthode rapide, exécutive, de dire OK, bon, let's go.
Suivre notre mémoire, se souvenir de.
Et il y a la partie qui est très soft, qui doit être développée. Et ça, c'est sur les valeurs, c'est sur les comportements. On en parlait, la culture d'entreprise, quand tu es un leader, quand tu es un contributeur. Et c'est extrêmement clé de constamment être une entreprise apprenante par l'expérience, par le support. Mais j'ajouterais que le mentorship vient aider énormément.
Au sein de l'entreprise?
Au sein de l'organisation, de pairer des gens, des jeunes talents avec des mentors et même de devenir mentor soi-même parce que tu apprends à travers le mentorship. Alors, je pense que c'est des bonnes pratiques, mais l'apprentissage, la formation structurée, mais dans l'expérience, à mon avis, c'est là qu'on grandit énormément. Et quand c'est pairé avec du coaching, mais c'est magique.
Moi, je trouve que ça facilite la communication. Tu sais, on se lève le matin, puis pour ceux qui travaillent dans les couleurs, je suis un petit peu rouge. OK? Alors, c'est sûr que j'aime le résultat. Fait quand on s'approche pas nécessairement de la bonne façon. Alors, quand quelqu'un se fait conseiller, je trouve que ça facilite nos conversations parce que quand tu arrives en avant, quand tu t'en vas voir un coach, souvent, le défi que tu as identifié n'est pas le vrai défi. Alors, ça te permet de démystifier des choses. Et quand tu arrives pour jaser, la jasette est plus facile et règle les choses plus rapidement.
De votre côté, François, la formation, est-ce que vous sentez que c'est un facteur clé de rétention que les gens, justement, ce fameux développement-là, j'imagine que les gens veulent aussi sentir qu'ils se développent.
Écoutez, c'est probablement, selon moi, un des plus importants. Hein? Donc, les employés maintenant, encore plus qu'auparavant, de sentir que l'organisation a leur développement à cœur, leur croissance à cœur, ça a un lien direct sur leur niveau d'engagement. Direct, direct. Nous, on a un sondage d'engagement qu'on fait auprès des employés 4 fois par année à travers différentes questions, mais cette question-là est la question qui est le plus fortement corrélée avec le niveau d'engagement. Et par conséquent, des employés qui sont engagés, mais des employés qui veulent rester, hein, qui veulent rester au sein de l'organisation, donc ça nous permet de les garder avec nous. On a des outils similaires à ceux qui ont été mentionnés un peu plus tôt, là, de coaching individuel ou d'équipe, mais moi aussi, je crois au mentorat. On a un beau programme structuré de mentorat dans l'organisation qui permet de jumeler des gens à tous les niveaux de l'organisation, d'être en contact avec des gens plus seniors. Puis, on a un focus extrêmement important aussi sur le plan de développement. Donc, on encourage tous nos gestionnaires à s'assurer que tous leurs employés ont un plan de développement clair et précis qui permet de les accompagner là, dans leur croissance individuelle, mais extrêmement important au niveau de la rétention. Ouais.
J'aimerais souligner un des commentaires aussi dans le chat. Je pense que ce que vous nommez là, c'est aussi des entreprises qui sont des organisations qui sont très matures. On ne retrouverait pas le même nécessairement niveau d'encadrement dans une nouvelle organisation, je présume.
Moi, je ne sais pas. Ouais. Si, moi, chez nous, même si on a 41 ans, je ne pourrais pas dire que c'est une organisation mature. Je pourrais dire que c'est une organisation qui s'est donné le défi d'être en constante évolution.
OK. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a un des commentaires, c'est il y a également un lien à faire entre la culture d'entreprise et le niveau de maturité d'organisation. Je crois que la culture peut aussi évoluer.
C'est constamment en évolution. Parce que dans une culture, c'est la somme des comportements de chaque personne. Alors évidemment, il faut être volontaire par rapport à notre culture. Moi, je pense que les fondements d'une culture, ce sont nos valeurs. Quelles sont les valeurs qui, quand on se joint à l'organisation, on doit partager ensemble? Et évidemment, on doit faire évoluer dans nos comportements et dans, évidemment, par rapport à l'environnement dans lequel on œuvre. Mais la maturité, évidemment, si tu es mature, tu es probablement plus... t'es prêt, je dirais, à plus t'auto-analyser, à être capable de dire « OK, c'est le temps d'évoluer ». Mais je pense que au sein de tous les types d'organisations, ça dépend beaucoup des leaders. Et on va revenir à CSU, là, mais effectivement, on revient à la base, qui est vraiment le leadership, la personne, et comment tu démontres les valeurs qui sont essentielles à ton organisation. Je pense que maturité vient aider peut-être.
OK, je comprends. Mais, un élément qui est fondamental justement aujourd'hui aussi, c'est l'inclusion. On en parle dans la société en général, mais on veut une diversité de points de vue, pour des réalités d'affaires. C'est bon pour les affaires d'avoir de la diversité puis de l'inclusion, mais il faut que cette inclusion-là aussi s'établisse dans un climat de confiance. Il faut que les gens aient confiance que leur point de vue, justement, dans le développement, on va en tenir compte. Quel geste concret on peut poser dans une organisation, justement, pour faciliter pas juste parce qu'on voit beaucoup d'entreprises dire on est pour la diversité, on est pour l'inclusion, mais concrètement, pour que ça se vive, que tous les individus puissent avoir un sens de... Il y a un avenir puis il y a un sens pour moi ici. Qu'est-ce qu'on peut faire, Hélène?
Bien, en fait, il y a plusieurs choses qui sont à faire, mais je pense qu'il faut se doter clairement d'objectifs clairs.
Okay. On peut mesurer.
Il faut absolument se dire, parce que sinon, on va avoir tendance à dire bien, la nature des choses va faire son œuvre et c'est pas vrai. Okay. Alors, il faut vraiment dire d'une façon très concrète, on se dote d'objectifs qui sont quand même assez...
Quel genre d'objectif? Mettons, sans entrer dans ce
cas industriel. En fait, on établit, nous, on est dans l'aéronautique, c'est typiquement masculin comme environnement. Ouais. Alors, on dit, bon, voici la représentation qui est à peu près de 20%. Et on commence avec des focus. La diversité en général, c'est très large. La diversité féminine, c'est le premier angle qu'on a adapté. Et on a dit, bon, on est à 20%. Notre objectif, c'est d'augmenter à du 35%. Ouais. Alors, de 20 à 35%, c'est énorme. Ouais. Et puis, évidemment, tu grandis.
Et toutes les organisations, comme vous, dans le monde, ont le même objectif. Donc, ces femmes-là qui cherchent... Donc, là, il y a un enjeu de recrutement ici.
Exact. Mais c'est plus que du recrutement, c'est la partie d'inclusivité. Parce qu'évidemment, le recrutement, c'est la façon dont tu vas amener le talent. Mais comment tu retiens ton talent qui fait partie de la population de diversité? Comment tu es inclusif dans l'organisation pour leur permettre de se développer, de grandir, de prendre des rôles de leadership? Ouais. Et évidemment, et là arrive, on a parlé de mentorat, mais arrive un des gestes clés, je pense, c'est le sponsorship, c'est le parrainage. Alors, quand un leader qui est déjà présent dans l'organisation prend une personne dans, j'appelle ça la communauté de diversité, et finalement dit « OK, moi, je vais te parrainer, je vais te supporter dans ton développement, mais je vais te parrainer, je vais parler de toi, je vais t'exposer. » Et c'est comme ça qu'on fait grandir et qu'on donne aussi, par des exemples concrets, place à la diversité. Ouais. Et on l'accepte aussi ce faisant. Parce que quand je décide de parrainer quelqu'un, je décide d'accepter les différences que ça m'amène. Donc, il y a de l'éducation à travers tout ça. Alors, ce sont des gestes. On fait plusieurs choses, mais ça, c'est deux exemples qui sont accessibles à tous.
Ouais. François, comment ça se passe pour vous à ce niveau-là, justement, d'inclusion puis de créer ce climat de confiance-là puis que les bottines suivent les babines, si je peux dire.
Oui, bien sûr. Mais écoutez, je pense que c'est maintenant un prérequis, je dirais, de toute organisation, d'avoir un volet diversité et inclusion. Moi, ça existe chez nous. On a d'ailleurs différents regroupements d'employés organisés autour de différentes minorités, que ce soit pour promouvoir l'avancement des femmes ou des groupes LGBTQ ou des différentes minorités visibles, etc. Mais ça, au moins, ça permet de créer puis de favoriser un environnement où la diversité puis l'inclusion est non seulement la bienvenue, mais elle est absolument requise. Mais je vous dirais que ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est d'essayer d'amener ça à un autre niveau Et puis, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'assurer qu'au-delà de toute cette diversité-là, qu'on essaie d'encourager également, parce que je pense que c'est ça qui est au cœur de la question de la diversité aussi, c'est la diversité d'opinion, la diversité de background, la diversité de perspective. Puis, je dirais que maintenant, dans le monde des affaires, on a besoin de ça. Notre environnement est tellement compliqué, tellement incertain, ça bouge tellement rapidement, il n'y a pas un individu qui a la réponse à tout. Donc, ça prend des gens qui voient les choses de façon différente, qui amènent leur grain de sel parce qu'ils ont un background, ils ont un héritage différent. Puis ça, ça nous permet de vraiment trouver des solutions là, qui adressent nos enjeux, nos problèmes. Un exemple concret que nous, on a, là, on a ajouté cette norme d'équipe-là. Mais quand vient le temps de prendre une décision, on doit s'assurer que tout le monde autour de la table a donné clairement son point de vue sur l'enjeu ou sur la situation. Puis ça, bien, ça nous aide justement à s'assurer que tout le monde peut parler, que tout le monde peut donner son point de vue. Puis honnêtement, ça nous permet de prendre des meilleures décisions. Donc,
C'est ça, on atteint les objectifs. Là, je vous vois hocher de la tête. Parce qu'en plus, vous, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parler de diversité, d'inclusion, mais vous, c'est les femmes d'affaires, c'est quand même, c'est une cause, puis c'est un milieu, puis c'est une communauté forte.
Ouais.
Qui est, donc, qu'est-ce que ça vous fait?
Il faudrait que je commence par faire un petit mea culpa.
Okay.
Parce que nous, le Réseau des femmes d'affaires du Québec, on a un accent qui est très particulier, c'est la diversification des fournisseurs dans les chaînes d'approvisionnement.
Ouais.
Nous, ça fait 10 ans qu'on dit que ta chaîne d'approvisionnement doit refléter ta chaîne de production à l'intérieur et tout ça. Et il y a 10 ans, quand j'ai commencé à en parler, ça ressemblait énormément à la surprise dans la boîte de Cracker Jack.
Il y a énormément,
je ne savais pas vraiment de quoi je parlais. Maintenant, les choses ont évolué, puis on dirait qu'avec la pandémie, on s'est donné droit d'ouvrir tout ça. Nous, notre équipe à l'interne de 8 personnes était 8 personnes issues de la même communauté ou de la même culture.
Okay.
Le dire d'une façon polie, mais là, on est 22 et on a à peu près 45% maintenant de nos effectifs qui sont issus de différentes cultures. Alors, l'important, c'est de prendre cette décision-là
et de se donner des objectifs
ouais. Parce que on a tous des réseaux. Nos réseaux, c'est de la proximité. Alors, on se connaît, on se réfère des gens qu'on connaît qui sont pas loin de chez nous. Alors, il faut juste accepter d'ouvrir, d'étendre et de se dire que on peut faire bien, mieux et autrement.
Absolument.
Puis Chloé dit aussi dans son livre quelque chose qui m'a tout le temps frappée. À toutes les fois que tu ajoutes une personne dans ton équipe, c'est une nouvelle équipe que tu es en train de former. Alors, qui que ce soit, ça vaut la peine de s'en occuper. Et je trouve que ces gens-là nous amènent une richesse, parce que notre richesse fait 60 ans qu'on la partage, alors on la connaît. Et d'amener d'autres personnes autour de la table, ça change le discours, ça fait évoluer le discours énormément.
Absolument, absolument. Le temps file. Dernière question pour vous, une pratique clé pour axer sur ce développement-là. Puis, Ruth, vous parliez, donc vous arrivez à les attirer. Vous avez changé la composition de l'équipe d'une certaine façon, mais ce serait quoi une pratique clé justement pour que les personnes puissent grandir, se voir? Puis une fois qu'on s'est donné cet objectif-là de 45 %, 35 %, la suite de ça là, pour que les gens grandissent dans l'organisation?
Consulter,
ouais.
Se parler, s'écouter, réfléchir et agir. Parce qu'il y a énormément, on est tellement
en mouvement.
Et agir.
Et agir.
Et agir. Parce que c'est bien beau de s'en jaser, mais si cette jasette-là ne mène jamais à on pense à l'action, ben on est toujours à la même place.
Je comprends.
Je suis complètement d'accord avec l'action, mettre dans l'action. C'est de donner des opportunités à ces gens-là, c'est de parler d'eux, c'est d'être volontaire, de mettre en place des programmes pour... Parce qu'évidemment, c'est de la diversité, mais la façon de penser est différente. Alors, on a des biais inconscients.
Oui, tout le monde. J'ai des biais inconscients, mais oui, absolument. Vient,
effectivement. Ouais. Et c'est au-delà de nous-mêmes, ces biais-là, parce qu'évidemment, ils sont inconscients. Alors, c'est de travailler à ouvrir ce jeu-là et à donner de la chance à augmenter. En fait, on le dit, dans une équipe, ça en prend 3 de diversité. Au sein d'une équipe, ça prend 3 personnes de diversité pour vraiment avoir une équipe diverse, au minimum.
Ouais.
Alors, seul, tu vas avoir tendance à te mettre dans le moule. 2, il y a un petit peu d'aide, mais à 3, tu fais vraiment un impact. Okay. Alors, c'est faire la place à ces gens-là, agir en conséquence, les développer, les supporter, les comprendre et leur permettre de prendre des rôles. Puis, comme organisation, de prendre des risques parce que traditionnellement, la façon dont on fonctionnait nous amenait avec un certain résultat. Et c'est d'avoir un leap of faith, d'avoir une croyance profonde qu'on est capable d'aller atteindre des résultats plus grands de par cette diversité-là. Okay. On a des statistiques qui nous aident, mais
faut le faire.
D'emboîter le pas, de prendre l'action, c'est clé. Et c'est ce qui va faire la différence. Et on le voit. Chez nous, on a progressé. Puis on avait au départ, ça n'arrivera pas, la masse n'est pas là. Et concrètement, ça bouge. Et on voit vraiment qu'il y a une diversité qui se joint à nous. Et ça fait de nous aussi une meilleure organisation. Voilà.
François, je me tourne vers vous. Une pratique clé, justement, pour faire grandir les employés de toutes les communautés là, dans les équipes?
Moi, je dirais un élément qui a été avec lequel je pense qu'on a eu beaucoup d'impact. Je reviens un peu à ce que j'expliquais tantôt. C'est hormis, bien sûr que ça prend les objectifs, ça prend la volonté organisationnelle, ça prend la structure qui le supporte, ça prend les exemples, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur d'expliquer pourquoi. Puis ça, des fois, je pense que c'est pas tout le monde qui le fait bien. Puis comme j'expliquais tantôt, moi, notre environnement aujourd'hui, peu importe l'industrie dans laquelle on œuvre, évolue trop rapidement, est trop compliqué et trop complexe qu'il faut arrêter de penser qu'il y a une seule façon de voir les choses, une seule façon de voir les problèmes. Ça prend des gens qui sont différents, puis ça en prend plusieurs qui sont différents, parce que c'est ce qui nous permet vraiment là, de voir toute l'étendue des enjeux, mais des solutions aussi qu'on peut apporter. Donc moi, je pense de rappeler la raison, puis d'être concret et précis, je pense que ça aide aussi. Ça aide à cette acceptation-là organisationnelle. Ça permet de faire croître tous ces gens-là.
Merci. Quelque chose à ajouter?
Je dirais un geste concret qu'on a posé, c'est tous les vendredis matins, le regard est posé sur qu'est-ce qui a été mon highlight de la semaine, qu'est-ce que j'ai fait de bien. Et mon highlight m'amène à faire sortir celui de l'autre. Mmh. Alors, vraiment, c'est des personnes qui sont plus nouvelles, ont plus de misère à s'exprimer. Alors, on va vraiment parler de notre bon coup de la semaine et qu'est-ce qu'il y a, le bon coup de quelqu'un d'autre qu'on a remarqué. Puis, moi, je remarque que tous ces petits changements-là qu'on a été forcés de faire à l'accélérer dans ces deux dernières années, je dis souvent, c'est l'humanité nous amène à propulser. Alors, moi, c'est à peu près le ce que j'en retire le plus parce que comme entrepreneur, là, souvent, on hésite hein, puis on calcule en euros qui se traduisent en piastres et tout ça. Puis quand tu le prends du côté de humaniser, c'est propulser, tu calcules d'une façon différente.
Absolument. Ça termine très, très bien cette table ronde. Merci à tous les trois. Merci François Villeneuve, directeur accès au marché et tarification chez Bristol Myers Squibb. Merci François d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Bonne fin de journée.
Merci beaucoup, c'est un réel plaisir. Merci.
Merci. Merci à Ruth Vachon, présidente du directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, et Guylaine Audet, vice-présidente capital humain de CAE. Merci vraiment beaucoup à toutes les deux.
C'est un plaisir.
Votre générosité, votre disponibilité. À bientôt.
Merci.
C'était la deuxième partie de l'événement « Au-delà de la pénurie, misons sur nos gens » présenté par O2 Coaching en collaboration avec Fasken et Formation Infopresse. Le livre et l'audiolivre « Propulser votre équipe » sont disponibles sur Amazon et sur le site d'O2 Coaching. Si cet épisode de Confession de leader vous a inspiré, je vous invite à le partager et à publier un commentaire sur Apple Podcasts. Chaque semaine, retrouvez-moi sur mon compte LinkedIn pour des contenus sur le leadership. Vous pouvez aussi suivre O2 Coaching sur LinkedIn ou Facebook. Et encore, visitez o2coaching.ca pour en savoir plus sur la manière dont on peut vous aider à propulser votre équipe. Je m'appelle Chloé Caron. Je vous invite à être inspiré et inspirant.